Atelier des médias, c'est la deuxième partie sur Radio France Internationale. Retour dans quelques instants sur notre plateau de Numa à Paris lundi dernier. L'atelier a été enregistré en public à Numa, donc pour parler de long format, c'est-à-dire de journalisme privilégiant la lenteur, le style, la narration, la longueur. Dans une vingtaine de minutes, Francis Pisani nous propose un éloge personnel de la curiosité, une qualité trop souvent présentée comme un vilain défaut.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Bonjour Florent Tamet.
Bonsoir.
Tu es directeur de la publication et cofondateur d'Iceberg, d'Ichsberg, ça s'écrit I-J-S-B-E-R-G, Iceberg Magazine, comment vous dites ?
C'est une prononciation libre, c'est ce qu'on a voulu, c'est que chacun puisse approprier le nom et puisse le prononcer comme il le souhaite.
Et toi, tu le prononces comment alors ?
Moi, je prononce Ichsberg.
Ichsberg a été lancé en juin dernier, c'est ça ?
Alors, Ichsberg a été lancé il y a 6 mois, on a publié notre manifeste le 13 mars dernier. Mais on a ouvert notre site en bêta public en juin. Donc on est 8 fondateurs d'Ichsberg. On vient tous les 8 du Journal International, qui est à la base une initiative de médias étudiants sur l'actualité internationale. Pour ma part, j'y ai travaillé pendant près de 2 ans. Donc on est parti de rien avec ce média, et en l'espace de quelques années, on arrivait à faire entre 0 et 200 000 visiteurs par mois sur le site. On a réussi à refaire du papier, et au bout d'un moment, on s'est dit qu'il fallait tourner la page et essayer d'aller encore plus loin, et de se donner les moyens d'avoir une autre ambition journalistique.
Et pour marquer cette ambition, tu l'as dit, en mars, vous avez publié un manifeste pour définir votre projet. Ça commence ainsi. Nous venons d'horizons divers, nous lisons la presse dans le métro, dans la rue, dans l'avion, dans notre salon ou dans des parcs. Nous surconsommons l'information sur mobile, dans les livres, à la télévision, sur Internet ou dans les journaux papier. Elle est partout, tout le temps, nous sommes surinformés, mais tant d'histoires nous échappent.
C'est exactement ça. Ichsberg, on l'a pensé avec une imbrication de plein de choses et une division surtout. Alors là où nos amis du 4 heures et du Lys ont fait le choix du format, nous on a fait le choix de ne pas faire de choix justement, mais surtout de le penser en termes de temps, en temps de lecture, en temps de publication et en temps de vie de l'information.
Et ces temps, vous leur avez donné des noms. Il y a 3-4 tempos. Je ne sais pas s'il faut. Enfin, tu vas expliquer.
Oui.
Donc il y en a un qui s'appelle promptement.
Voilà. Alors promptement, pour le lier à un terme qui est un petit peu plus connu de tous, c'est des brèves, donc c'est des informations très courtes, à lire rapidement, et qui est vraiment la diffusion d'informations qui s'ancrent vraiment dans l'actualité.
Qui parle de l'actualité internationale, évidemment.
C'est ça, oui. Alors il faut rappeler qu'Ichsberg est un média d'actualité internationale, que nous traitons que de l'international, et donc pas de la France.
Ensuite, il y a calmement.
Alors calmement, on prend, enfin du coup comme son nom l'indique, on prend un petit peu plus le temps de raconter un sujet. On est beaucoup plus dans l'analyse. Là aussi sur le design du coup de ce format, on a décidé de laisser la place au texte pour vraiment véhiculer l'information qu'il y a derrière et permettre au lecteur de vraiment se plonger dans l'information qu'on souhaite lui transmettre.
Et enfin, il y a un mode qui s'appelle lentement.
Il s'appelle lentement. Qui nous se rapporte du coup à notre longue forme à nous. Notre catégorie lentement, on la résume très simplement, on dit au lecteur que notre terrain de jeu, c'est son écran. On a un côté un petit peu geek qu'on assume, il faut savoir qu'on développe tout nous-mêmes et que, en fait, on n'a sous-traité aucune partie en termes de développement web, où on fait tout maison, on fait tout à la main. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on peut se permettre de considérer l'écran du lecteur comme notre terrain de jeu à nous et de pouvoir apporter des éléments techniques suffisants et nécessaires pour faire vivre un sujet comme on le voit.
Tu as dit que vous étiez geek, vous aimez beaucoup les outils informatiques, vous faites aussi des lives, ce qui est étonnant, c'est-à-dire que le live, c'est un petit peu ce qui... Donc le live, c'est le direct, c'est un petit peu ce qu'on fait dans toutes les rédactions, ou pour reprendre une expression qui a été dite tout à l'heure, on bâtonne des dépêches, mais vous aussi, vous faites du live, et vous faites du live, par exemple, le dernier, je crois que c'était sur la keynote d'Apple, donc le moment où Apple présente ses produits, et là, il s'agissait de l'iPhone 6 et de la nouvelle montre d'Apple.
C'est ça, ce qui nous intéresse.
Donc là, on est loin du journalisme narratif.
Ce que je disais, on a fait le choix justement de pas faire le choix. On mixe un petit peu tous les temps d'information. Le live en fait partie. On estime que certains événements méritent justement d'être traités en live, d'être également approfondis ensuite dans nos différents formats, mais que le live nous permet d'aborder le sujet aussi du point de vue de l'émotion, de discuter avec les lecteurs, et c'est aussi ça qui nous importe, c'est d'essayer de créer une discussion avec, avec nos lecteurs et de les intéresser finalement à l'information.
Un mot sur votre modèle économique. Vous avez écrit vous avez tenu un blog en fait pendant la période entre le manifeste et le lancement. Vous avez écrit un billet qui s'appelait Éthique et créativité, maître mot de notre politique publicitaire, pour définir votre modèle économique. En gros, c'est ça.
Un mot sur le modèle économique, c'est pareil, c'est pragmatique. On a décidé de tout mixer, justement de varier les sources de financement pour éviter de mettre tous les œufs dans le même panier, si je peux le dire comme ça. Donc, par rapport à la publicité, c'est effectivement prévu. Sur le site, pour l'instant, il n'y en a pas, il y en aura prochainement. Mais effectivement, on a certaines valeurs d'éthique et de créativité. Ichberg est un univers à part entière. Et l'idée, c'est de travailler main dans la main avec les annonceurs en disant « Faites travailler votre créativité ». Ichberg, c'est un pur produit de créativité. Nous, on l'a sorti de notre tête. On l'a tout développé nous-mêmes. L'idée, c'est justement que les annonceurs puissent faire preuve de créativité.
En gros, vous voulez bien avoir de la pub, ou même vous souhaitez en avoir, mais vous voulez qu'elle soit créative et vous voulez peut-être participer à la créativité de la pub.
Il faut que ça puisse rentrer dans l'univers d'Ichberg. Voilà.
Rebonjour, John Weiss.
Hello.
Je rappelle que tu es directeur de la publication et cofondateur de Street Press. Tu veux dire un mot déjà sur tout ce que tu as entendu ?
Moi, je suis très content que des projets se lancent. Souvent, on parle de son projet, on discute, et je vois de plus en plus des gens qui viennent de rédactions, qui viennent d'écoles, qui montent leur canard, leur site d'info. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau. C'est-à-dire que une idée, elle vaut que si on passe le truc et qu'on le fait. Et là, on a trois super projets qui le font.
Toi, tu as monté Street Press il y a 5 ans. À l'époque, ça s'appelait même Street Reporter. Hein.
Exact.
On avait fait un reportage dans l'atelier des médias. C'est un site qui s'est rendu célèbre avec ses vidéos. Vous publiez des vidéos qui buzzaient, comme une célèbre interview de Michael Vendetta. Tu n'aimes pas que je cite cet exemple ?
Non, c'est marrant parce que c'est une des vidéos qui a marqué notre histoire, effectivement.
Après, vous avez fait aussi beaucoup de micro-trottoirs, de petites vidéos. Vous avez aussi lancé une école, la Street School. Vous avez fait aussi un classement des écoles de journalisme. Ça fait partie des choses qui vous ont rendu célèbre, qui ont fait un petit peu votre marque, avec donc cette idée de street, de rue, et puis de vitesse, de rapidité, etc. Et là, vous lancez une nouvelle formule qui n'a rien à voir.
Écoute...
qui marque une évolution énorme.
Street Press, on l'a pensé depuis le départ comme un magazine qui devait parler de manière authentique à ses lecteurs. Un, parce qu'il y avait une rédaction ouverte, et deux, dans le ton de ce qu'on voulait rendre, la manière dont on le racontait, la manière dont on posait une question. Aujourd'hui, on le construit comme un hebdo. C'est-à-dire que chaque semaine, vous avez ce qu'on appelle une cover, un papier sur lequel on a passé du temps, qu'on va aussi défendre, parce que y a beaucoup d'infos qui sortent. Qu'est-ce qu'on va encore plus défendre ? Nos covers, c'est aussi 500 affiches qu'on colle dans Paris et la banlieue, qui illustrent le sujet qui est en une sur Street Press.
Et donc, votre cover cette semaine est consacré au combat de coq dans le Nord, comme le 4 heures.
Et ça nous semblait intéressant, hasard, d'ailleurs, comme question, c'est un hasard. La semaine dernière, c'était 6 mois d'enquête avec les membres de la Ligue de Défense Juive, où c'était 70 000 signes. L'idée du long qu'on met en cover, donc en une du site chaque semaine, c'est pas du long pour se faire plaisir ou du 70 000 signes pour montrer qu'on a enquêté. C'est plus un sujet qu'on a attrapé. Et au fur et à mesure de l'enquête, le long, c'est le temps de l'enquête sur Street Press. Enquêter, pour nous, ça prend du temps. Et si on veut aussi garder cette confiance vis-à-vis du lecteur, je crois pas au format du journaliste qui arrive sur le terrain, qui prend ses 2 sons et qui repart en annonçant qu'il a fait une enquête. Donc si c'est une enquête, ça prend du temps. Et la conséquence, c'est que ça va être long à lire.
Tu as d'ailleurs inauguré votre série de formats longs avec un reportage, tu l'as cité, en 3 volets sur la Ligue de Défense Juive, qui est, on peut dire, une organisation de fier à bras qui a fait parler d'elle récemment dans l'actualité, c'est ça ? Enfin, en gros, je résume.
C'est ça, ouais.
Voilà. Je vais te citer parce que c'est assez amusant la manière dont tu amènes le fait que tu vas être long. Lecteur. Pour te raconter la Ligue de défense juive en vrai, je vais devoir faire long. Les médias en ont déjà fait des tartines sur la LDJ. La LDJ, c'est comme ça qu'on appelle la Ligue de défense juive. Et c'est toujours la même histoire qu'on te raconte. Des jeunes juifs organisés en milice qui s'entraînent au Krav Maga et qui tapent des Arabes. Sauf que la Ligue, en vrai, c'est un peu plus compliqué.
Ben, c'est vrai. D'abord, ils ont plus de cours de Krav Maga depuis 2 ans. Voilà. Ça a fermé, c'est dur de trouver un prof bénévole, et du coup, ça c'est des choses qu'on déroule au fur et à mesure. Parce que si vous allez les voir, c'est un exemple que je trouve intéressant, parce qu'il y a eu un flot d'articles sur le sujet qui n'était pas forcément mauvais, c'est pas ce que je veux dire. Mais si vous êtes la télé, que vous voulez aller vite, bah, vous les appelez, ils vous organisent le cours de Krav Maga. Et donc vous l'aurez. Si vous voulez la voir, vous l'aurez. Sauf qu'en fait, il n'y en a pas à chaque semaine, et il n'y a pas d'entraînement. Tout ça pour dire que le temps de l'enquête... pour garder gagner la confiance aussi des gens avec, dont on parle. Il y a une défiance qui est dingue, et c'est aussi pour ça qu'on a créé Street Press. Il y a une défiance qui est dingue vis-à-vis des gens qui produisent l'info. Cette confiance, je pense qu'il faut la gagner, et il faut rendre la complexité, la réalité. Un article comme celui dont on parle, il a pas fait plaisir, vraiment pas, aux gens dont on parle, mais on a gagné la confiance aussi, je pense.
Et on voit d'ailleurs en le lisant, c'est un très long article, hein, que tu rencontres énormément de personnes, que tu voyages aussi, dans le récit, tu pars à Jérusalem, hein, c'est ça, pour suivre, voir ce qui se passe quelque chose. Tu doutes énormément de toute la rhétorique, il y a énormément de messages qui sont passés sur Twitter par la Ligue de défense juive, et tu doutes un petit peu de la véracité de la plupart de ces messages. En même temps, t'as un ton qui est très personnel, avec beaucoup de mise en scène, il y a essentiellement de l'écrit, pas de vidéo. Donc c'est vraiment un changement radical.
Nous, on a un magazine qui veut parler aux 20-35 ans, aux urbains, et on est assez modeste.
Avant, c'était 20-30 ans, maintenant.
C'est vrai.
Ça vieillit avec
c'est
vous.
C'est vrai. Et on est assez modeste parce que on se dit que si on fait bien notre boulot, on veut bien s'adresser aux gens à Paris et en banlieue, donc en Île-de-France. Et ce qu'on veut, c'est raconter cette réalité-là. Là, nous, ce qu'on dit entre nous, c'est quoi la vraie vie qu'on veut raconter, les vraies histoires devant lesquelles on passe et on n'a pas forcément le temps de s'arrêter. C'est quoi qu'on veut raconter, c'est ça. Et ne serait-ce que si on le fait bien sur Paris et l'Île-de-France, on pense qu'on aura fait notre job. Donc aujourd'hui, la structure du site, c'est enquête, donc des enquêtes, des infos qu'on sort, des lieux et des gens. Les lieux, bah, des spots, des reportages, des endroits qu'on a envie de pousser sur le site. Et les gens, bah les personnages urbains qu'on croise dans Paname, autour de Paname, à qui on n'a pas forcément le temps de parler. Et du coup, bah le job journée, c'est de faire ce que les lecteurs n'ont pas nécessairement le temps de faire. Donc aller raconter, faire des portraits, des interviews, des gros entretiens.
On sent quand même aussi, et ça c'est peut-être une question que je peux adresser à tout le monde, une forte tentation de la littérature. C'est-à-dire que il y a les jeunes qui sortent d'école et qui se disent j'ai pas envie de bâtonner des dépêches, c'est-à-dire écrire des articles sur des dépêches. Et il y a toi, après 5 ans, après avoir buzzé sur des vidéos, fait des choses dans tous les sens, on sent que t'as envie que vous avez envie de vous poser, d'écrire des choses longues et de vous faire plaisir et peut-être de donner plus de plaisir aussi.
En fait, c'est le sens pour nous. C'est le sens et c'est à quoi on sert comme média. C'est quoi notre rôle? Et clairement, pour nous, le canard, le journal, il se met dans un dispositif démocratique où, à un moment donné, aussi bien les gens qui sont des décideurs publics que les citoyens, ils ont besoin d'avoir l'information. Et cette info-là, bah, c'est à nous de la produire humblement, honnêtement, humblement, et de faire sens dans ce qu'on raconte. Donc si c'est déjà sorti ailleurs, ça a peu de sens. Si c'est pas sorti ailleurs, il va falloir prendre du temps pour le raconter.
Qu'est-ce que c'est vos références aux 4 heures, par exemple ?
Alors le 4 heures, quand on l'a créé, il y a une référence qui s'imposait à peu près à tout le monde, c'était Snowfall du New York Times. Donc cet article long format qui revenait sur une avalanche, qui mettait en forme des photos, vidéos, sons, tout ça. Ça nous a beaucoup plu et du coup ça nous a aussi beaucoup inspiré. Et comme je disais tout à l'heure, on est aussi tous très attirés par l'écriture littéraire et journalistique. Voilà, on est tous fans de Pascal Robertiard ou de Delphine Sobhaber. Voilà, c'est des références qu'on a, des plumes. C'est quelque chose qui nous plaît à lire et aussi à essayer d'écrire. Et aussi, on est aussi les héritiers de WebDoc et tout ça. Donc on a aussi cette fibre web qu'on veut aussi imbriquer l'un dans l'autre. Mais ce que tu disais sur l'écriture, sur le côté littéraire, nous, ce qui nous plaît aussi, c'est de raconter une histoire, mais pas pour dire c'est une histoire anecdotique, ça nous a tous fait marrer et puis racontons-la. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est une histoire, c'est des lieux, des personnages, prendre le temps d'y aller. Mais cette forme-là, elle sert en fond elle sert un propos, elle a un sens, elle n'est pas gadget. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que proposer une immersion au lecteur, donc une expérience web, mais une immersion dans un sujet aussi, dans un lieu, dans des personnages qu'il n'aurait pas forcément vu ailleurs, dans un autre média.
Alors, on va, avant de donner la parole au public, on va faire un petit tour de table. Vous avez tous lancé donc soit vos nouvelles formules, soit vos projets il y a peu de temps. Quand on parle de ces nouvelles formes, on dit des personnes vont dire ça marchera jamais, ça coûte trop cher, ils n'arriveront jamais à trouver l'équilibre, etc. Comment ça se passe l'accueil jusqu'à maintenant de vos différents projets?
Alors, je vais parler. Florent. Du coup, je parlais pour Hirschberg. Non, pour l'instant, ça va. On dialogue beaucoup avec nos lecteurs sur les réseaux sociaux. Twitter, ça marche plutôt très bien. Et les retours, pour l'instant, qu'on a sont assez positifs. C'est pour ça qu'on avait lancé une bêta privée au départ, en invitant 100 utilisateurs qui s'étaient inscrits, tout simplement, pour vraiment avoir un dialogue pendant un mois, pour avoir leur retour et adapter, du coup, l'interface à leurs remarques. Et pour l'instant, on va dire que les retours sont plutôt très positifs.
Estelle, vous avez un objectif d'un certain nombre d'abonnés. Vous avez lancé à peu près il y a un mois, on va dire, enfin il y a quelques jours votre
vraie formule a été lancée le 3 septembre avec l'article sur les coqs.
Mais vous avez commencé à rameuter les foules il y a quelques semaines.
Voilà, on a préparé le terrain.
Ouais, comment ça se passe? Donc, qu'est-ce que c'est votre objectif ou est-ce que vous en êtes?
Alors nous, notre objectif, c'est d'ici un an et demi, d'avoir 3000 abonnés. Pour pouvoir vivre de façon pérenne et pouvoir payer nos pigistes, nos équipes et tout ça.
C'est quand même tout à fait raisonnable, hein, entre 3000 abonnés sur un an à 20 euros.
Et donc, pour le moment, on a de bons retours, des gens en termes qualitatifs, de la part des gens qui nous attendaient, qui lisent l'article et qui aiment la nouvelle formule et qui aiment la nouvelle plateforme. Donc ça, c'est très rassurant et très encourageant pour nous, parce qu'on a pas mal travaillé dessus. Et puis, on a aussi de bons retours de nos partenaires. On essaie de créer aussi des ponts avec d'autres médias, avec des partenaires qui nous amènent vers un public qui n'est pas uniquement le nôtre. Donc
et une des possibilités, vous le mentionnez, c'est de diversifier vos activités, c'est-à-dire vendre votre savoir-faire à des personnes qui en auraient besoin pour mettre en scène l'information, etc.
Voilà, c'est ça. C'est une des options, une des pistes de développement. Ouais, et on est très heureux de pouvoir partager ça avec d'autres médias. Pour nous, éditorialement et humainement, c'est aussi super enrichissant.
Tu as rappelé le nombre d'abonnés que vous avez aujourd'hui ou pas encore?
Pour l'instant, on a dépassé les 150, donc on démarre doucement depuis le 3. Et on continue, on relâche pas.
Julien, comment ça se passe, vous?
Oui, en fait, on a à peu près les mêmes objectifs que le 4 heures. Et c'est vrai qu'on en discutait il n'y a pas longtemps avec Estelle. Et c'est vrai que le modèle qu'on a choisi, tout comme le 4 heures, est assez, enfin, je ne veux pas dire radical, mais c'est quand même un paywall. Donc il faut payer pour accéder à l'information.
Un mur payant.
Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, on espère vraiment que nos lecteurs comprendront que l'information, justement, a un coût et que faire cette démarche, d'enrichir les histoires, de les éditer, etc. C'est un travail qui se rémunère, comme on rémunère les auteurs également.
Johan, le mot de la fin, comment ça se passe l'accueil de vos audiences par rapport à vos nouveaux formats?
Du coup, la formule de Street Press en mode magazine et hebdo, enfin, la première chose qu'on voulait rendre, c'était un côté magazine avec des covers super fortes. Ça, je pense que ça a été assez clair et ça a été bien. Enfin, le message est tout de suite passé. Le deuxième truc derrière, c'est que le Street Press actuel, il est accessible sur smartphone, beaucoup plus viralisable du coup. On attend du coup des augmentations d'audience directement liées à ça. Après, le challenge pour nous, c'est vraiment de penser Street Press comme un mag avec une identité, avec une marque qui est une marque forte. D'où l'affichage, par exemple, en mode street marketing, la nuit. Et 500 à Paris, voilà, et 500 affiches, d'où des déclinaisons locales papier qui sortent à partir de début octobre, pareil sur des quartiers de Paris ou de villes autour de Paris. Et pour nous, il n'y a pas de frontière quand on produit l'info après pour la décliner et la diffuser aussi bien en web que sur les supports mobiles qu'en print.
Merci à tous les quatre. Merci aux équipes de Street Press. Merci aux équipes de Numa. Merci aux équipes de l'Atelier des médias. Merci au public. Vous étiez très nombreux. Ça fait chaud au cœur.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Jeanne Mahalouf.
Comment ça va ?
Très bien, et toi ?
Ça va très bien, merci beaucoup. Tu veux aujourd'hui nous parler, nous faire l'éloge même de la curiosité. Pourquoi donc ?
C'est très simple, c'est parce que notre culture nous y prépare mal, alors qu'elle est essentielle pour survivre et prospérer dans le monde d'aujourd'hui. Je voudrais commencer par quelques références hors du temps. La curiosité a traditionnellement mauvaise cote, elle est naturelle chez les enfants, mais peu encouragée dans l'enseignement et mal vue dans la plupart des institutions, qu'elles soient publiques ou privées. En français, par exemple, on dit volontiers qu'elle est un vilain défaut, alors qu'en anglais, on dit qu'elle a tué le chat. Et signe patent de notre culture à dominante machiste, c'est toujours la faute des femmes. L'envie de goûter la pomme a fait d'Ève la responsable de notre expulsion du jardin d'Éden, et la curiosité de Pandore a lâché sur nous les maux de l'humanité, tous les maux de l'humanité. J'ai été très impressionné en lisant la liste dans l'article de Wikipédia sur Pandore que je conseille à nos lecteurs.
C'est vrai que la curiosité a mauvaise presse, mauvaise cote, et est-ce qu'à tes yeux elle est encore plus utile aujourd'hui, donc la curiosité, qu'avant ?
Je pense qu'elle est particulièrement nécessaire et elle est une fabuleuse recette dans plusieurs domaines, j'en retiens quatre au moins. Elle est très utile pour faire face à l'incertitude qui caractérise notre époque. Et si le savoir, par exemple, permet de résoudre les problèmes en fonction des solutions passées, la curiosité permet d'en trouver de nouvelles. Elle est utile pour aborder les conflits avec un état d'esprit qui nous rend plus créatifs dans la recherche de solutions. Elle est utile pour innover. N'oublions pas en effet que la plupart des innovateurs semblent tenir leur talent de la capacité d'établir des connexions entre des éléments disparates que seule leur curiosité permet de découvrir puis d'assembler. Enfin, elle est essentielle pour se lancer dans l'expérimentation avec l'espoir de trouver de nouvelles réponses concrètes permettant de changer la façon d'opérer, d'agir, de procéder dans le monde.
J'imagine qu'il y a des exemples quand même d'auteurs, de personnes qui ont vu la valeur de la curiosité.
Tu as tout à fait raison et j'en ai retenu deux pour notre conversation. Le premier est Boris Groysberg, qui est professeur à la Harvard Business School et qui fait de la curiosité avec la flexibilité et l'adaptabilité une des trois qualités essentielles des cadres supérieurs. Pour lui, il ne suffit plus de suivre ce qui se passe dans son domaine, chacun le sien, ni même de suivre l'évolution du marché. Il est indispensable d'avoir une curiosité intellectuelle développée pour anticiper les changements. De son côté, c'est mon deuxième exemple, Thomas Chamorro Prémusique, dans un poste de la Harvard Business Review, intitulé « La curiosité est aussi importante que l'intelligente », il explique que le quotient de curiosité, QC, commence à figurer à côté du quotient intellectuel et du quotient émotionnel. Ceux qui ont un quotient de curiosité élevé, font preuve de deux grandes qualités, la tolérance face à l'ambiguïté et la volonté d'acquérir des connaissances nouvelles.
Mais est-ce qu'on peut développer son quotient de curiosité ou tout simplement sa curiosité ?
On peut le développer et on peut l'aiguiser. Ça commence pour tout le monde par le courage de poser des questions, par le jeu, par le retour à la curiosité de l'enfance et ça se développe par des exercices de formation que sur lesquels nous reviendrons un jour si tu veux bien car c'est un sujet qui mérite d'être développé à part je crois. Je voudrais commencer aujourd'hui par insister sur la nécessité d'en reconnaître la valeur et j'ai deux citations de deux auteurs prestigieux qui peuvent nous éclairer, qui peuvent nous aider. Le romancier portugais Essa de Queiroz, et n'oublions pas qu'il s'agit là d'un peuple de navigateurs, notait déjà au début du XXe siècle que la curiosité mène à tout, parfois à écouter aux portes, parfois à découvrir l'Amérique. Et le grand gourou du management, Peter Drucker, affirmait « Le leader du passé savait dire et raconter, le leader du futur sera demandé et poser des questions. » Au vu de tout ça, moi je me demande ce que font les dirigeants des grosses entreprises comme Sanofi, Total, L'Oréal, Renault, BNP Paribas et toutes les autres pour développer leur curiosité et encourager celle de leurs employés. Mais la question se pose aussi aux maîtres et maîtresses d'école, aux professeurs, aux parents, à chacun d'entre nous. Sommes-nous assez curieux ? Faisons-nous ce qu'il faut pour l'être plus, pour l'être mieux ? Mais peut-être as-tu une idée là-dessus ?
Je ne sais pas, je vais essayer de réfléchir. En tout cas, je pense que les journalistes sont par nature curieux. En tout cas, je l'espère. Merci Francis. On peut retrouver tes contributions, tes écrits sur ton site personnel, ton blog qui s'appelle francispisani.net. On peut aussi te lire sur les sites de l'Opinion et de la Tribune. On peut enfin retrouver toutes tes chroniques en audio et en texte sur ton blog de l'Atelier des médias. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 353 de l'Atelier des médias proposée par Manon Mellard, Raphaël Constant, Dilette Sadawi, Jules Nardouek, Raja Yahyaoui, Simon De Creuse, Pierrick De Morel et Ziad Malouf. Amis parisiennes, parisiens, je vous donne rendez-vous ce lundi à 19h à Beaubourg dans la petite salle du niveau moins 1 pour une rencontre débat dans le cadre du cycle culture numérique de la BPI. La BPI, c'est la Bibliothèque publique d'information. Nous explorerons avec Marc Parmentier, philosophe, Marie Bergström, sociologue, et Stéphane Rose, journaliste et écrivain, nous explorerons l'anatomie d'une rencontre en ligne. Entrée libre et gratuite, bien entendu. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter. Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org et arablog.org. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, des bonus.
Des bonus.
Ben, ça continue sur Internet.